Nous allons revenir vers une actualité plus immédiate.
Au Libre Journal des historiens de Radio Courtoisie.
Avec Jean-Pierre Arignon, nous allons évoquer la question russo-ukrainienne. Jean-Pierre Arignon, qui a été souvent l'invité de notre émission, je le remercie encore de sa présence. Jean-Pierre Arignon, qui est professeur émérite des universités, qui est historien, spécialiste de Byzance, spécialiste de l'histoire de la Russie. Il a réalisé notamment une Russie médiévale aux éditions des Belles Lettres qui fait autorité, ainsi qu'un ouvrage consacré à la Russie aux presses universitaires de France. Jean-Pierre Arignon, qui est aussi, je l'ai appris, docteur honoris causa de l'université russe de Yaroslav, et qui a une connaissance approfondie et intime de la Russie, qui donc va nous apporter forcément des éclairages précieux quant à la situation que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine. Mais tournons-nous vers l'histoire. Il y a un premier débat, Jean-Pierre Arignon, à propos duquel j'aimerais que l'on puisse faire un point. C'est la question de la Russie de Kiev, la Rousse de Kiev. Certains disent, c'est le début de la Russie, donc Kiev, Moscou, c'est la même chose. Hein. D'autres disent, non, pas du tout, c'est pas pareil. Ce sont deux histoires distinctes. De quoi justifier, en quelque sorte, la volonté d'autonomie ou d'indépendance de l'élément ukrainien par rapport à la grande Russie. Alors, vous êtes un spécialiste de la Russie médiévale, donc vous êtes tout à fait familier de cette question. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Alors, sur la Rousse de Kiev, le débat, d'ailleurs, il faut le savoir, vient d'un historien ukrainien, Rouchevski, qui était un historien nationaliste, qui a cherché à faire de la Rousse de Kiev le moteur de l'Ukraine. Mais là aussi, l'histoire, je dirais, regarde cette évolution un peu différemment. La Rousse de Kiev, qu'est-ce que c'est ? La Rousse de Kiev, c'est un État qui se constitue autour d'un axe fluvial qui va au nord le Volkhov, au sud le Dniepr, et qui va s'établir sur cet axe fluvial reliant deux grands ensembles, le monde balte au nord, la Méditerranée au sud. Et cet État va naître sous l'impulsion de ceux que l'on appelle les Varegs, c'est-à-dire les Scandinaves qui partent vers l'Est, que l'on appelle Variag en russe ou Vareg chez nous, qui sont l'équivalent de nos Vikings, qui sont ceux qui parlent vers l'Ouest. Et cet État-là va naître, ils vont réussir à fédérer et à rassembler autour d'un pouvoir qu'ils apportent de paix, ils vont réussir à fédérer les tribus slaves dans un espace, je dirais, vertical, nord-sud, avec deux points majeurs, au nord, et qui sont deux portes commerciales, au nord, bien sûr, Novgorod, qui est l'entrepôt de la Baltique, et au sud, Kiev, qui est l'entrepôt de la Méditerranée. Et autour de cet ensemble-là se crée donc un État, qui est cet État, l'État matriciel du premier État des Slaves de l'Est qui est en place. Cet État-là a trois caractéristiques fortes. Première caractéristique, c'est que cet État-là va entrer dans ce que l'on appelle l'oïkouménée byzantine au Xe siècle, c'est-à-dire il va entrer dans un espace, on dirait aujourd'hui géopolitique, dominé par l'empereur de Constantinople, mais dont l'élément constitutif est l'adhésion au christianisme oriental. Et c'est le baptême de Vladimir en 989. Dès lors, vous avez tout naturellement un espace qui se constitue autour de Constantinople au sud et qui monte jusqu'à la Baltique au nord et dont les principaux éléments de domination et de lisibilité sont très clairs. La cathédrale de Kiev est placée sous le vocable de Sainte Sophie, celle de Novgorod sous le vocable de Sainte Sophie, et je ne vais pas vous indiquer toutes les Saintes Sophies qui apparaissent à ce moment-là dans cet espace-là, qui souligne, s'il en était besoin, que cet état-là est la fille aînée, je dirais, de Constantinople, du patriarcat de Constantinople. C'est là un trait extrêmement important. Et le deuxième trait très important, c'est que cet état de la Rus de Kiev, qui atteint son apogée entre le Xe et le XIe siècle, sous le règne de Yaroslav Moudry, qui règne, lui, de 1019 à 1054, eh bien, sous ce règne-là, la Rus de Kiev devient un des moteurs économiques du monde occidental. C'est là qu'aboutissent la route qui part de Cordoue et qui va jusqu'à Kiev et bien au-delà en direction de l'Asie centrale, ce qu'on appelle la voie des Radhanites, ce qui a permis à certains historiens de rappeler que finalement l'origine des Russes serait Rodez. À cause des Radhanites. Alors, je vous laisse l'apprécier. Et j'ai reçu d'ailleurs à ce titre-là une lettre du maire de Rodez me demandant de vérifier cette étymologie, car il y voyait pour sa ville un élément de rayonnement tout à fait majeur. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la voie des Radhanites qui allait d'est en ouest. Et cette Rus de Kiev est complètement à la fois le vecteur du monde oriental et byzantin, et complètement rattaché à l'Occident, puisque les trois filles de Yaroslav ont épousé des rois, dont l'une, un roi de France, évidemment, et Anne de Kiev, Anna Yaroslavna, qui était la première femme dont on a conservé un diplôme royal signé de sa main, et qui connaissait le latin, le grec et le slavon. Et elle a apporté un prénom dans la dynastie des Capétiens, puisque son fils s'appelle Philippe Ier. C'était l'épouse d'Henri Ier, et elle a donné Philippe Ier, et c'est la première fois qu'un nom grec, Philippos,
absolument,
entre dans la dynastie des Capétiens par cette femme, tout à fait exceptionnelle. Alors, voilà ce que l'on peut dire pour la Rus de Kiev. Mais ce qui est majeur de rappeler, c'est que cet état-là va entrer en grande difficulté, en grande décomposition, ce que l'on appelle le morcellement féodal, à partir, disons, des années 1050 à peu près, et ce pays va se déliter et va subir une double attaque dont va naître l'Ukraine. Et c'est ça qui est intéressant. La Rus de Kiev et l'Empire byzantin sont attaqués de l'Ouest, d'une part par la Méditerranée, et c'est la quatrième croisade, dont l'objectif n'est pas uniquement Constantinople, mais s'ouvrir la mer Noire pour y installer les colonies vénitoises et génoises. C'était ça l'objectif. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs très bien. Et de l'autre côté, ils vont être attaqués dans les années 1230-1240, eh bien, par les chevaliers teutoniques, auxquels le pape a donné la conversion de peuple païen, car les orthodoxes sont considérés comme païens, c'est-à-dire la Lituanie et la Russie. Vous savez que tout ça s'arrête au lac Tchoud, lorsque Alexandre Nevski bat les chevaliers teutoniques, donc la Russie en est protégée. Et alors, ce qui est intéressant, juste pour vous donner le point, c'est que les Mongols arrivent à la même période de l'autre côté, 1230, 6 décembre 1240, prise de Kiev par les Mongols, 1236-1240. Les Mongols, eux, vont vont prendre Kiev, qui d'ailleurs a été détruit depuis longtemps par Yuri Dolgorouki. C'est une légende de dire que ce sont les Mongols qui ont détruit Kiev. C'est un prince russe qui a détruit Kiev. C'est Yuri Dolgorouki en 1169 qui a détruit la ville de Kiev et qui a transporté dans sa principauté du Nord,
Yaroslav,
la fameuse...
À Yaroslav?
Non, À la presse, Yuri Dolgorouki à Vladimir.
À Vladimir.
Il a transporté à Vladimir celle qui est devenue le symbole même de la chrétienté orientale, à savoir la Vierge de Vladimir, ce qu'on appelle la Vladimirskaya, qui est une icône byzantine transportée. Alors, vous voyez, et à ce moment-là, sous le choc des Mongols d'un côté, les Latins de l'autre côté, que se passe-t-il ? Bien, il se passe que vous avez un flux de population, et ça qui est intéressant, flux majeur de population. Toute la région du sud de la Rousse est transformée en zone de paissance et de remonte pour les chevaux des Mongols. Les populations s'en vont vers le nord. Et c'est pour cette raison, si vous allez voir l'anneau d'or autour de Vladimir et de Souzdal, vous retrouvez les toponymes qui sont autour des villages de Kiev. Car les populations partaient, fondaient un autre village, mais gardaient le toponyme. Et une autre partie de cette population est partie vers l'ouest, formant les principautés de Galicie et de Volhynie, que le pape a voulu instrumentaliser contre une couronne royale pour en faire le rempart contre les Mongols. Mais apparaît à ce moment-là, vers le XIIIe siècle, donc un mot qui n'existe pas en slavon auparavant, et ce mot, c'est Ukraina, zone de marche, zone de mouvance, où il n'y a plus de civilisation, il n'y a plus de société, et c'est une zone de passage qui va être une zone, puisqu'elle est vide, dans laquelle vont s'installer les populations qui vont fuir le rassemblement de la terre russe autour de la principauté de Moscou, et ils vont se réfugier où ? Ben, ils vont se réfugier dans ces terres abandonnées, et ce sont nos fameux Cosaques. Ce sont les Cosaques qui viennent là, à partir des 14e, 15e et 16e siècles. Donc l'Ukraine ne peut pas, historiquement parlant, instrumentaliser la Kievskaya Rus, celle de Vladimir et de Yaroslav, à son profit. La Rus de Kiev, incluait Novgorod, et le fleuve russe le plus important, ce n'est évidemment pas la Volga, qui n'a été conquise qu'au XVIe siècle, 1552, c'est évidemment le Dniepr. Et donc il faut sentir tous ces éléments de pesanteur et dans une situation contemporaine qui, évidemment, pèse très lourd dans les choix des hommes politiques.
D'ailleurs, vous écoutez... il y a également une Krajina dans le sud de la Croatie.
Oui, bien sûr.
Et avec le même sens.
Exactement la même chose.
Zone de marche, zone
de frontière. C'est les zones de marche, zones de frontière. Et les terres dans l'Empire austro-hongrois, on avait aussi toute une zone, ce qu'on appelait les terres militaires, qui était une zone de passage, les confins militaires, où passaient précisément les populations qui fuyaient les répressions turques quand ils partaient vers le nord.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors, première question donc sur la Russie de Kiev, vous nous avez éclairé. Dans un deuxième temps, il y a un autre moment important qui se situe au XVIIe siècle, ces fameux Cosaques dont vous avez parlé tout à l'heure, qui nomadisent plus ou moins sur ces périphéries du monde russe, et puis qui se mettent au service aussi des princes russes. On sait la part qu'ils ont prise dans la conquête de la Sibérie, exemple. Ces fameux Cosaques, à un moment précis, nous sommes au milieu du XVIIe siècle, ils vont se tourner vers la Russie. Ils vont clairement faire le choix de la Russie face à la puissance qui se trouve à l'ouest et qui est rivale de la Russie, qui est la Pologne. Voilà.
Alors là, vous touchez du doigt, c'est un peu le problème actuel d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette recomposition, je dirais, de la Russie, et plutôt de la Moscovie, si vous voulez, les princes de Moscou vont entreprendre de rassembler la terre russe autour de la principauté de Moscou. Et notamment, ça sera celui qui va le réussir le plus parfaitement, c'est Ivan Veliki, qui est Ivan III, et non pas Ivan IV, le terrible, qui lui va réussir à rassembler les populations. Mais pendant que la Rousse rassemble ces populations, pendant que les Russes se rassemblent autour de la principauté de Moscou, ce qui va donner en Occident le nom de Moscovie, qu'on va l'appeler, à l'ouest, il faut savoir qu'un même phénomène est en cours. C'est le rassemblement de l'État polono-lituanien. L'État polono-lituanien, ou je dirais plutôt l'État lituano-polonais. Car le point de départ de l'expansion est plutôt lituanienne, c'est l'époque de Vytautas et de Mindaugas, ou Vytoft et autres, et qui vont, princes païens, qui vont construire un État qui va de la Baltique jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à la mer Noire, pardon, la mer Noire, il va là, cet État-là, et qui va se trouver non pas en déshérence, mais qui va s'unir à la Pologne avec l'union de Crevaux et le mariage d'Edwige avec Jagellon. Et à ce moment-là naît un double État, l'État polono-lituanien, qui a une force considérable, dont la frontière se situe où ? Elle se situe sur le Dniepr. La rive droite du Dniepr faisant était en l'État polono-lituanien, la rive gauche étant le domaine des Cosaques. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces différentes structures de Cosaques, ces Cosaqueries comme on les appelle, ces Cosaqueries sont très très différentes. Le mot Cosaque signifie donc des gens qui ont fui un processus étatique qui se met en place. Donc ils s'installent dans ces zones, ils vivent dans des villages communautaires, ce qu'on appelle la stanitsa, des stanitsi, et qui partagent, ils travaillent en commun les terres, partagent les outils, et les hommes se mettent au service de ceux qui les sollicitent. Alors, ce sont tantôt les Turcs, ce sont tantôt les Russes, et ce sont tantôt les Polono-Lituaniens. Et donc, on a là une zone d'interférence où tout le monde se bat. À l'époque où que vous citiez tout à l'heure des conflits, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que dans l'adhésion de la Lituanie et de la Pologne, la réunion de le christianisme romain est devenu l'élément d'identification de l'adhésion à l'État nouveau. Et donc les Polonais qui ont obtenu des quantités phénoménales de biens et de terres dans ces régions, y ont propagé en même temps la religion catholique et romaine, suscitant de violentes réactions des populations paysannes et orthodoxes, qui se trouvaient doublement exploitées par l'Église et par les seigneurs polonais. Le résultat, eh bien, c'est que les tensions deviennent insoutenables. Et c'est dans ce contexte-là que les Cosaques de Bogdan Rymielnitski vont rentrer en conflit contre les Polonais, vont battre l'armée polonaise et vont créer d'abord un hetmanat et vont surtout demander à ce que l'Ukraine soit associée, intégrée à l'Empire russe. Mais il faut savoir que la Douma a refusé cette demande d'incorporation, et il a fallu que le tsar pèse de tout son poids pour finalement accepter que que l'Ukraine, entre guillemets, cette partie, la rive gauche du Dniepr, puisse faire son entrée dans l'Empire russe en gardant un certain nombre de privilèges qui ne lui seront supprimés que par Catherine II. Par exemple, le servage qui n'existait pas et un certain nombre d'éléments.
Et l'Etmana.
Et l'Etmana qui va être gardé. Donc, il faut voir tous ces éléments, cette pesanteur qui marque ces régions et qui, évidemment, aujourd'hui, sont des rappels historiques récurrents et que chacun instrumentalise.
Et alors, ces Cosaques, ils sont divisés en plusieurs groupes distincts.
Ah oui.
Les Zaporogues, les Cosaques du Don, etc. Et est-ce qu'au XVIIe siècle, c'est l'ensemble des groupes Cosaques qui se tournent ainsi vers la Russie ?
Non.
Est-ce que certains demeurent proches
tout à fait de la Pologne.
Du domaine polono-lituanien,
bien sûr,
galicien, etc.
Bien sûr, d'accord. Ils étaient divisés, combattant les uns les autres pour le titre d'Hetman, chacun, les uns ont été du côté des Polonais et des Lituaniens, Bogdan Khmelnytsky était, lui, du côté des Russes, et c'est les rapports de force qui faisaient que cette région était une région en mouvance, une vraie Ukraina. C'était une région en mouvance.
Et les héritiers actuels de ces communautés cosaques, quelle est leur attitude, quelle est leur posture aujourd'hui? Parce qu'on en voit beaucoup apparemment du côté russe ou pro-russe. Est-ce qu'il y en a également qui sont attachés, à l'inverse, à la cause aujourd'hui de l'État ukrainien?
Alors, aujourd'hui, il faut bien voir que les Cosaques, d'abord, ont disparu après 1917, la révolution, qui a évidemment supprimé le Cosacestva, comme l'on dit, c'est-à-dire les Cosaques, puisqu'ils étaient au service d'abord de l'empereur de Russie. Et donc, par conséquent, en 1917, la question a été réglée. Et ils ne sont réapparus que tout à fait tardivement dans un contexte très particulier, qui est celui du contexte ethnographique, avec les danses cosaques, avec la culture cosaque, et avec toute une, je dirais, une philosophie et des attitudes dont vous avez probablement le souvenir dans un tableau de Vaznetsov où l'on voit un groupe de cosaques hilar. Des visages plus en forme de trogne, ils sont en train de... Ils vivent un moment extraordinaire. Alors, quel est le moment qu'ils vivent? C'est une lettre qu'ils sont en train d'écrire. Vous pourrez voir le tableau à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Une lettre d'insulte qu'ils écrivent au sultan ottoman. Et alors, manifestement, cette lettre les met dans un état de joie indicible. Et vous savez qu'un poète français, Rimbaud, a écrit la réponse. Et donc, on peut lire devant la réponse d'un Français, tellement il a été impressionné par cette vision. Alors, voilà ces Cosaques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, aujourd'hui, on peut dire que les Cosaques représentent plus, je dirais, un souvenir de ce type ethnique qu'une véritable force politique.
Une identité culturelle.
Une identité culturelle qu'autre chose. Néanmoins, vous savez que il est difficile de se rapprocher du monde des Cosaques avec l'État de Skoropadsky qui s'est mis en place pendant les guerres et qui va être avec le titre d'ataman et qui va obtenir qui va être combattu aussi bien par Petliura que Simon Petliura que par Marno. Cet l'etmana va être détruit et donc par conséquent le retour de l'histoire, là, ne passe pas dans le schéma qui est le leur aujourd'hui.
Mais l'etnana de Skoropadsky était assez lié aux Allemands.
Il était tout à fait...
C'est ça le problème.
Oui.
Le problème, c'est qu'avec le départ des troupes allemandes,
je rappelle à nos auditeurs, nous sommes là en 1918.
Absolument. 1918, voilà. C'est en 1918, c'est le moment où va être écrit la garde blanche de Bulgakov également.
Exactement.
Et si les auditeurs veulent, connaître une image de ce qu'a pu se passer en 1918, eh bien, il faut qu'ils lisent la garde blanche de Bulgakov.
Alors, il y a un point qui me paraît intéressant et qui est lié à l'actualité et notamment aux propos tenus récemment par Vladimir Poutine en termes territoriaux. Poutine a expliqué récemment que toute la région qui s'étend entre la Crimée et la Transnistrie actuelle, avec Odessa notamment, tout ça, c'était un domaine qui avait toujours été considéré comme russe. Que les révolutionnaires bolcheviques, quand ils avaient réalisé les découpages territoriaux après 1917, avaient donné ça à l'Ukraine, ce qui n'avait pas grande signification, puisque tout ça, c'était le même ensemble, évidemment. Alors, qu'en est-il en réalité de cela? Parce que, finalement, si on se souvient bien, au XVIIIe siècle, c'est à l'époque des grandes tsarines du XVIIIe siècle, d'Elisabeth Petrovna, puis Catherine. Ensuite, que le littoral de la mer Noire est occupé et conquis après les victoires remportées par les Russes contre les armées ottomanes.
Bien sûr.
Donc, historiquement, la légitimité historique semble nous indiquer que ces régions-là sont des régions russes. La Crimée, c'est une évidence.
La Crimée a toujours été russe, mais la région d'Odessa, permettez-moi de rappeler ici l'œuvre importante d'un grand Français, le duc de Richelieu, qui est quand même celui qui est le fondateur d'Odessa, et au nom, évidemment, des empereurs de Russie.
Et qui est, dont le successeur était également un Français, et le comte de Langeron.
Le comte de Langeron, qui était également un Français. Donc vous voyez, ces régions-là ont fait partie intégrante, je dirais, de l'Empire russe à l'époque, et cet Empire russe qui se voyait effectivement en face de conquérir toute cette rive sud de la mer Noire, avec pour objectif, bien sûr, Istanbul, Constantinople. Ce n'est pas par accident que le fils aîné de Paul Ier, du fils de Catherine II, s'appelait Alexandre, mais le second s'appelait Constantin. Et le nom de Constantin lui a été donné à dessein, car pour lui, il devait prendre le trône de Constantinople. Et donc, par conséquent, il est clair que la Russie avait une dimension géopolitique qui la conduisait dans ces régions, et une dimension géopolitique, il faut bien voir comment elle était perçue à l'époque, au XVIIIe siècle. Vous savez, ce sont des régions qui connaissaient des ranas ou des petites principautés extrêmement dures, où les populations étaient très très soumises, et l'armée russe a souvent été perçue à cette époque-là comme libératrice. Et d'ailleurs, si vous voulez en avoir une forme audio, eh bien, écoutez dans les steppes de l'Asie centrale, de Borodine, écoutez, vous entendrez au fond l'arrivée de l'armée russe, qui est le mouvement calme, qui ramène la paix partout où elle passe. Donc vous voyez, cette image-là est ancrée profondément dans la culture russe, je dirais, bien au-delà de l'histoire. Elle est devenue une méta-histoire culturelle dans laquelle l'expansion a joué son rôle.
Alors, il y a une autre dimension importante aussi. On a évoqué la poussée russe en direction de la mer Noire, mais le XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque des trois partages de la Pologne.
Oui.
Et c'est à ce moment-là que Lvov, Tarnopol, toutes ces villes qui constituent aujourd'hui la partie occidentale de l'Ukraine, qui est la partie qui est remontée, évidemment, contre la Russie, qui ne veut pas de la domination russe. C'est à ce moment-là, donc, que ces territoires-là reviennent à l'Empire russe.
Alors, pour ce qui concerne Lvov, non. Lvov devient autrichien.
Autrichien. Hein,
puisque est autrichien.
Autrichien.
Lemberg.
C'est Lemberg-Léopoldville.
C'est Lemberg, oui.
Alors, ce qui est intéressant, ce sont les partages de la Pologne, les trois partages successifs de la Pologne. Alors, tout le monde qui s'intéresse un petit peu de loin à ces questions se rappelle que dans nos livres d'histoire, eh bien, il y a eu trois partages, mais le plus important, ça a été l'occasion pour les Russes de s'emparer de la Pologne. Il faut savoir que dans les négociations liées à l'effondrement de la Rzecz Popolita, c'est-à-dire une implosion géopolitique de la République, si on veut, polonaise, eh bien, les trois empires qui jouxtaient cet État se sont demandé ce qu'il fallait faire avant que la situation ne devienne incontrôlable. Et à ce moment-là, les trois empereurs vont négocier. La seule qui a demandé le maintien de la Pologne, il n'y en a eu qu'une.
Marie-Thérèse.
Non,
Catherine
pas
II.
Du tout.
Catherine II.
C'est Catherine II. Catherine II, et on a ses textes, a ferraillé avec les Autrichiens et les Prussiens pour maintenir la Pologne, et se rendant compte qu'elle n'y parviendrait pas, elle a pensé qu'il valait mieux que ça soit les Russes qui prennent une large part de la Pologne, pour maintenir leur culture, ce qui paraît étonnant aujourd'hui.
Oui, parce que c'était des Slaves, peut-être.
Parce que c'était des Slaves, bien sûr. Oui. Et qu'elle elle voyait ce qui allait se passer. Et que la partie Galicie-Voligny va entrer dans l'Empire d'Autriche, et la Prusse va prendre l'autre partie de cette région. Et ce qui va faire disparaître, évidemment, la Pologne. Et vous savez les conséquences que ça va avoir. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que l'aigle blanc polonais devient une décoration éminente de l'Empire russe. Mais par respect pour la Pologne.
D'ailleurs, il portait le titre roi de Pologne, je crois.
Roi de Pologne, c'était le titre. Et même tsar de Pologne. Puisque vous savez que l'empereur russe ne porte qu'un seul titre. Il est impérator depuis Pierre le Grand, et pas tsar. Mais il portait le titre, c'était empereur de Russie, de toute la Russie. Et ensuite, tsar de Finlande, tsar de Pologne, c'était un titre secondaire.
D'accord.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal des historiens, dirigé aujourd'hui par Philippe Conrad, assisté de son adjoint Pierre de Meuse et de Nicole. Nous recevons Jean-Pierre Arignon à propos de l'Ukraine et de la Russie, en présence de Bernard et Alain Zeller.
Alors, un auditeur nous dit que la lettre des Cosaques au sultan n'est pas de Voznetsov, elle est de Répine.
Urzipine, oui, il a Répine. Raison.
Voilà.
Je fais amende honorable, c'est
Répine. Merci, cher auditeur. Alors, on nous demande, l'invité a-t-il des informations sur quel type d'Ukrainien pouvait être dans les armées d'un chef de guerre qui s'appelait Makhno pendant la Révolution russe ? Reste-t-il des souvenirs de cette action dans la mémoire actuelle en Ukraine ?
Alors,
le personnage de Makhno, qui est mort en France.
Alors, Nestor Ivanovitch Makhno, vous le savez, est né à Ouliapol, justement chez les Cosaques Zaporoge, de l'autre côté. Il est né en 1889, il est mort, comme vous venez de le dire, à Paris, d'une façon très pauvre d'ailleurs, le 25 juillet 1934. Vous savez qu'il est inhumé au Père-Lachaise, et il y a un numéro où il est inhumé.
Il a fini ouvrier chez Renault.
Et ouvrier chez Renault, c'est cela. Alors, c'était un personnage qui a gardé encore en Ukraine et chez les Ukrainiens, nos amis ukrainiens, qui a gardé encore une identité. C'est le phénomène un peu particulier, mais je dirais qui est très important de connaître. Et je remercie l'auditeur d'avoir posé, ou l'auditrice, d'avoir posé cette question. Pourquoi ? Parce que Makhno est un personnage... un personnage qui s'est vraiment engagé, mais littéralement engagé, dans l'anarchisme. Il a combattu tout à la fois les Blancs, les Rouges et les Allemands. C'était un personnage très particulier. Et Makhno et ses troupes sont perçus de temps en temps par les Rouges comme un allié utile, sinon fiable. Notamment, c'est Makhno qui va... être chargé de combattre les armées blanches du général Denikine. C'est l'homme de Denikine. Et c'est lui qui va être chargé de ça. Et le 26 janvier 1919, un accord d'ailleurs est signé, officiellement cette fois-ci, entre Makhno et les bolcheviks. En échange, qu'est-ce qu'il y avait ? En échange, il y avait la fourniture d'armes et les Makhnovistes, comme on les appelle, deviennent alors la 3e brigade du Dniepr. La voilà, cette fameuse 3e brigade du Dniepr, partie intégrante de l'armée rouge. Et les combats, malgré cet accord, les bolcheviks sont très méfiants contre ce groupe d'anarchistes parce qu'ils voient dans leurs propres troupes, puisqu'ils font partie, se multiplier les anarchistes et ils viennent déstabiliser complètement les troupes des bolcheviks, contestant les commissaires politiques. Et ils abandonnent d'ailleurs bientôt l'Ukraine pour renforcer d'ailleurs la défense de Moscou que menaçait Denikine. Alors, voilà tous ces moments. Et ils sont mal vécus pour un événement que vous connaissez comme moi, puisque du 26 octobre au 5 décembre 1919, eh bien, ce sont les troupes de Makhno qui ont pillé, violé, liquidé les fameux ménonistes. Ces ménonistes qui accueillaient l'armée blanche de Denikine dans ces villages d'Ukraine. Eh bien là, notamment ce qu'on appelle le massacre d'Eichenfeld, deux jours où on a mis à mort 140 vieillards, hommes, femmes et enfants. les Mennonites sont complètement, cette communauté, vous savez, germanique, qui ouais. vivait là pacifiquement, sont à peu près anéantis. Alors voilà la lutte. Marnot va mener la lutte jusqu'en 1920 contre les forces blanches et les troupes d'occupation allemandes et autrichiennes. Il se bat des deux côtés. Et après la défaite, c'est après la défaite de Wrangel que les marnovistes deviennent inutiles pour les bolcheviks, qui les déclarent immédiatement hors la loi. C'est le quatrième congrès de juin 1919. Ils prennent les armes contre les rouges sous forme de guérilla. Et en août 1920, Marnot est blessé lors d'un combat contre l'armée bolchevique. Et le 28 août 1921, il se réfugie en Roumanie, d'où Tchitcherine voudrait le faire extrader et juger. Puis Marnot passe en Pologne, d'où il se rend à Danzig, où il est détenu. Et là, il s'évade pour rejoindre Paris. Paris, où il fonde un journal que l'on peut trouver à la Bibliothèque nationale de France, Dielotruda. Dielotruda est là le journal qu'il a fondé. Il y mène plus qu'une activité, on peut dire, théorique. Et il reçoit un certain nombre d'anarchistes. Et il vit, comme vous le... Il meurt de tuberculose, vous le savez, à Paris, le 25 juillet 1934. Et si vous voulez aller sur sa tombe, eh bien, c'est le Columbarium, le numéro 6685. Et je vous signale que sur son... les derniers présidents de la... sont venus se recueillir sur... la tombe de Ukrainiens sont venus de Marnot. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Marnot.
Une question que je voudrais vous poser, monsieur le professeur, c'est la question linguistique.
Oui.
À propos de la langue ukrainienne, également, quelle a été l'attitude des autorités tsaristes pendant le XIXe siècle vis-à-vis du culturalisme ukrainien au sujet de la langue? Et aussi, est-ce que, en dehors de l'ukrainien et du russe, il y a d'autres langues qui sont parlées en Ukraine?
Alors, la langue, d'abord il faut savoir que la langue matricielle des langues slaves, c'est le slavon. Vous savez, comme moi, simplement un tout petit rappel historique pour qu'on comprenne les choses. Lorsque les peuples slaves, si vous voulez, qui commencent leur migration de leur territoire, qui est le territoire de la Pologne, hein, du nord des Carpates jusqu'à la Baltique, les uns vont vers l'ouest, ça va être les Polonais, mais ils sont pas les seuls, il y en a d'autres aussi, hein, les Tchèques, les Slovaques, etc. D'autres vont vers le sud, et d'ailleurs il y en a que deux, les Serbes et les Croates, il n'y a pas autre chose. Et les troisièmes...
Pas les Slovènes ?
Non, partent vers l'Est.
Hein. Non, mais les Slovènes.
Ah, les Slovènes aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas ceux qui ont... ceux qui ont constitué la Bosnique, les Bosniaques.
Ah ben non, mais
un Bosniaque, c'est un Serbe ou un Croate devenu musulman,
monsieur.
Simplement. C'est cela, alors qu'au moment donné, on a dit la nation bosniaque, etc. Alors, les autres, c'est les Russes qui vont venir. Ces gens-là, ces peuples-là n'ont pas d'écriture, et il faut attendre Cyril et Méthode, qui vont inventer l'écriture glagolitique dans les années 865. Puis, cette écriture glagolitique ne s'est répandue que chez les Slaves du Sud. Elle a à peine effleuré les Slaves de l'Ouest et elle ne s'est pas répandue, mais elle n'est même pas connue, chez les Slaves de l'Est. Et il faut attendre un siècle plus tard pour que soit inventée une autre écriture qui va être connue sous le nom de cyrillique. Elle est inventée à Prespa en Bulgarie par deux moines d'Ohrid qui, en l'honneur de Cyril et Méthode, lui ont donné ce nom. Alors c'est très important. Et c'est très important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez fleurir, en Russie par exemple, les statues de Cyril et Méthode. Mais on les fait, ils tiennent sur le cartouche, l'alphabet cyrillique, justement celui qu'ils n'ont pas inventé. Et je ne cesse de protester, de leur dire, mais quand même, pas vous, que nous le fassions, à la limite, on peut dire, bon, il y a eu une erreur, mais que les Russes le fassent, ou les Bulgares le fassent, C'est quand même assez extraordinaire de voir que le changement d'écriture. Alors voilà ce que l'on peut dire sur cette écriture. Alors quant à la langue ukrainienne, les langues, la langue russe va se former, comme toutes les langues. On va distinguer le slavon, qui est la langue d'église, c'est-à-dire une langue qui est figée dans son évolution, je dirais, onomastique, culturelle et linguistique. Et le vieux russe, qui est la langue du peuple. Et aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, pendant très longtemps, on a découvert en Russie, notamment en Russie du Nord, près de Novgorod, on a découvert des écorces de bouleau. Et ces écorces de bouleau sont sur lesquelles écrivaient au XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, on en a des quantités, hein, les marchands russes. Et il y a plein de mots que l'on ne retrouve pas. Et on a trouvé, mes collègues russes ont trouvé une idée qui s'est avérée extrêmement productive. Ils ont publié ces écorces de bouleau sur un petit journal qu'on distribuait à la campagne. Et ce sont les gens de la campagne qui avaient gardé le souvenir de ces mots et qui, pour eux, ces mots avaient un sens et qui donnaient et de le sens aux linguistes. Donc c'est comme ça que la langue se forme. Or, le monde slave, c'était la langue russe qui était dominante, et à partir du XIVe siècle, avec ce retour sur la Russie, la formation de l'État polono-lituanien et la dimension ukrainienne, il va y avoir effectivement, à ce moment-là, l'apparition, je dirais, du biélorusse, russe blanc, du l'ukrainien, également de l'autre côté. Alors, qui ne sont pas des langues différentes, qui sont des langues filles, qui vont évoluer, par exemple, l'ukrainien par rapport au russe. Il y a quelques termes spécifiques à l'ukrainien. Par exemple, on dit un dictionnaire mauvais, alors qu'en russe, c'est slovar. Vous voyez, il y a quelques mots comme ça. Mais ça va être une iotisation très forte, avec des « i » un peu partout, qu'on vous retrouve dans l'ukrainien, que vous ne retrouvez pas chez les Russes. Mais, si vous voulez, les différences linguistiques existent. Il faut savoir que le premier poète ukrainien, n'est autre que Taras Chevchenko, qui est le premier à avoir écrit en langue ukrainienne, pour donner à l'ukrainien une dimension culturelle qu'elle n'avait pas, parce que l'autre grand ukrainien, c'est évidemment Nicolas Gogol, qui, lui, n'a pas écrit une ligne en ukrainien, mais exclusivement en langue russe. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir été marginalisé pour les noms de rue à Kiev.
Et ce Shevchenko, il vivait à quelle époque?
Alors, Taras Shevchenko a vécu en même temps, au XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle.
D'accord.
Alors, j'ai un poème sur lui, de lui d'ailleurs, plutôt, pas sur lui, qui est assez beau. Et ce poème, et c'est son... son testament. Il a écrit un testament qui est un texte assez extraordinaire. Le voilà. Je vais le récupérer. Et ce texte, le voici. Taras Shevchenko, le testament. Voici ce qu'il dit. Et vous allez voir, c'est intéressant si on le lit. Alors, il y a différentes traductions. Il était écrit en 1845. Il dit ceci. « Quand je mourrai, enterrez-moi en dressant ma tombe au cœur des steppes infinies de ma chère Ukraine, pour que je voie les champs immenses, le Dniepr et ses falaises, et pour que je puisse entendre son grondement puissant. Quand de l'Ukraine il portera jusqu'à la mer bleue le sang ennemi, alors j'abandonnerai montagnes et prairies et m'envolerai vers Dieu pour prier. Mais jusque-là, Dieu m'est inconnu. Enterrez-moi. Mais vous, debout, brisez vos chaînes et abreuvez la liberté avec le sang des ennemis, puis dans la grande famille, la famille libre et nouvelle, n'oubliez pas de m'évoquer à voix basse, tendrement. Voilà un poème de Shevchenko.
Et alors, à partir de là, à partir de cette première prise de conscience ukrainienne, quels ont été les développements du nationalisme ukrainien jusqu'en 1914, en fait, jusqu'au début du XXe siècle ?
Alors, le développement du nationalisme ukrainien s'est fait avec beaucoup, beaucoup de vigueur, parce qu'il a été porté par des gens de qualité. J'ai cité l'historien Rouchevski, par exemple, son histoire de l'Ukraine, qui est un travail extrêmement important et qui l'a fait connaître. Et alors, l'autre élément qu'il faut bien voir de l'Ukraine, c'est incontestablement le relais du nationalisme a été pris par des personnages. Et des personnages qui ont marqué ce pays. Alors, le premier à l'avoir marqué, c'est Simon Petlioura. Avec Simon Petlioura, alors Simon Petlioura portait sur son comme brassard exactement celui que vous trouvez aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui à Maïdan, les hommes de Maïdan portaient le trident, comme on dit, de Petlioura. Alors Petlioura était un journaliste ukrainien, il est né à Poltava, lui du coup en 1879, et il est mort, vous le savez, assassiné à Paris le 25 mai 1926. Petlioura. Alors, c'est un des hommes les plus importants du mouvement national ukrainien. C'est le commandant suprême de l'armée. C'est le troisième président de la République populaire ukrainienne. Et donc, c'est autour de personnages de cette dimension que le nationalisme ukrainien s'est développé, car c'est un homme de lettres, c'est une des figures du mouvement socialiste ukrainien au début du XXe siècle, autonomiste, puis indépendantiste. Il est celui qui a formé l'armée ukrainienne, c'est le premier fondateur de l'armée ukrainienne. Il lutta contre les bolcheviks et l'armée blanche durant la révolution russe. Vaincu, il part en exil, dirige le gouvernement ukrainien en exil, et les pogroms qui se déroulèrent sur le territoire ukrainien à cette époque et le motif de son assassinat sont aujourd'hui l'origine de très vives controverses. Je crois qu'il y a des études qui sont en cours aujourd'hui pour essayer d'avoir une vision plus historique, je dirais, de ces événements. Mais il faut savoir que Petlioura est promu héros de l'Ukraine. Donc c'est autour de ces gens, de ces hommes-là. Et l'autre, c'est bien sûr Stepan Bandera. Stepan Bandera, qu'il met en 1909, lui, du coup. Eh bien, Stepan Bandera est un personnage qui a profondément marqué le pays. Il a, en 1939, Bandera arrive à Cracovie à la tête d'un groupe de nationalistes ukrainiens et il participe à l'organisation de deux bataillons au sein de l'armée nazie, qui est le bataillon Nartigal, c'est lui, Nartigal, avec ses deux bataillons, le bataillon Roland, et qui forme ce qu'on appelle la Légion ukrainienne. Et Bandera n'y a pas participé à titre personnel, mais il est le fondateur. En 1940, il dirige le groupe révolutionnaire de l'UM, et le 30 juin 1940, il est nommé, vous le savez, au gouvernement du nouvel État ukrainien, proclamé en 1941 à Lviv. Donc, vous voyez, il y a une tradition là. C'est pour ça que sa statue aujourd'hui est à Lviv, et cette statue a fait une tempête, puisqu'elle a été élevée par le président Yushchenko, mais le centre international du judaïsme a demandé à ce qu'on lui retire le titre de héros de l'Ukraine, le Simon Wiesenthal. Alors aujourd'hui, sur Bandera, son rôle, quel est-il? On ne sait pas trop, mais il a été arrêté aussi par les nazis. Ce sont des personnages qui ont une carrière tout à fait particulière. Et après la guerre, il s'est installé en République fédérale d'Allemagne, vous le savez, où il a été assassiné le 15 octobre 1959. Le procès a eu lieu en 1962 dans la République fédérale d'Allemagne, et Stachinski, qui a été condamné à 5 ans de prison, a été condamné à 8 ans de prison, a été condamné comme responsable d'un assassinat engendré par le KGB, et qui avait été chargé de le réduire. Mais ces gens-là ont porté, si vous voulez, le nationalisme ukrainien. Et vous voyez, depuis Rouchevski, en passant par Petiura, en allant jusqu'à Bandera, ce sont tous des gens qui ont une forte imprégnation culturelle et littéraire et qui vont porter un nationalisme qui aujourd'hui, évidemment, ressort pour une, comme un élément d'identité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces gens-là proviennent de la partie ouest de l'Ukraine.
Bien sûr.
C'est-à-dire la région de l'ancien empire austro-hongrois, comme vous le disiez très justement. Et il est certain que ceux qui, parmi vos auditeurs, ont pu visiter Lviv, alors cette ville dont le nom est imprononçable, parce que dès que vous prononcez le nom de cette ville, on vous met une étiquette. Et on vous dit, si vous dites Lvov, vous êtes russe, donc partisan des Russes. Si vous dites Lviv, eh bien, vous êtes alors là ukrainien. Si vous dites Lvov, vous êtes polonais, parce qu'elle a été polonaise.
Et Lemberg,
oui, alors là, vous êtes autrichien. On entre dans l'autre contexte.
Mais c'est pareil pour Vilna.
Voilà.
Vilna, Vilnius, Vilno.
Oui, oui. Vilno. Alors voilà ces éléments qui ressortent.
Alors, vous écoutez Radio Courtoisie. Le journal des historiens, et nous entendons en ce moment Jean-Pierre Arignon à propos de l'Ukraine et de la Russie. Nous avons des messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Un auditeur, pourquoi à Kiev a-t-on appelé la place Maïdan, qui est un mot iranien?
Oui, tout à fait. C'est un mot iranien. Maïdan veut dire place en langue farsie, j'ose dire.
Et pourquoi, pourquoi
je crois que c'est le mot qui a été pris, bien tout simplement, je ne me suis pas posé la question de l'origine, mais la place Maïdan, et c'est une origine, à mon avis, qui ne doit pas être très 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 ancienne, et on a pris un mot iranien pour désigner cette place. Mais à vrai dire, je ne sais pas quelle est l'origine de ce vocabulaire. Maïdan.
Et puis un auditeur nous dit, cher professeur, qui nous parlait si bien de l'Ukraine, je vous soupçonne d'avoir un ordinateur en guise de mémoire. Merci et bravo pour cette passionnante émission.
Alors, si vous me permettez, vous dire à vos auditeurs une dernière chose qu'ils ont peut-être vue à la télévision. Vous avez peut-être vu à la télévision des soldats, à casquer. Et des hommes casqués. Je dis soldats, c'est un bien grand mot. Des hommes casqués. Et ces hommes casqués avaient sur leur casque, et vous les voyez très bien, deux chiffres. 14-88. Premier coup d'œil, on se dit, ça doit être un numéro ou de régiment. Ou de ça. Pas du tout. Il faut savoir ce que ça veut dire. Et vous voyez, c'est pas anodin. Alors, 88, alors ça dépend où vous mettez le 8. Si vous commencez l'alphabet par en haut, la huitième lettre, c'est H. Et donc, 88, Heil Hitler. Si vous le commencez par la fin et vous remontez l'alphabet, c'est le S qui se trouve. Et là, vous avez vous-même vu, c'est SS. Donc, ce n'est pas anodin. Alors, pour problème, le 14, qui est devant le 88. Ça, c'est plus compliqué. Alors, le 14 serait, mais je dis ça en guise de boutade pour vos auditeurs, serait rattaché à un propos d'un Américain, David Lane. Et Le 14, ce serait le nombre de mots qui composent en anglais la formule « La beauté de la femme aryenne blanche ne doit pas disparaître de la terre ». 14, voilà. 88.
Bon. Amusant.
Alors, nous avons également un message d'une auditrice qui nous signale un accord conclu entre l'Ukraine et la Turquie, un accord technique concernant l'organisation de l'administration. Et elle en profite pour nous rappeler qu'en mars 2013, Ahmet Davutoglu, le ministre turc des Affaires étrangères, déclarait que la parenthèse kémaliste n'avait que trop duré, qu'il était temps de reconstituer l'Empire ottoman. Et ce rapprochement entre l'Ukraine et la Turquie, semble-t-il, elle l'interprète comme une volonté néo-ottomane, puisqu'il faut le rappeler, le littoral de la mer Noire et la Crimée ont été ottomans jusqu'au XVIIIe siècle.
Alors, je connais assez bien Davutoglu, c'est un historien, comme moi, qui a fait sa thèse sur l'Empire ottoman, mais il est très loin de vouloir reconstituer l'Empire ottoman. Mais par contre, ce qui est intéressant dans votre question, et très intéressant, et la question de l'auditrice, c'est que, effectivement, la Turquie s'est tournée pendant très longtemps, vous le savez, vers l'Europe. Puis, ayant reçu des fins de non-recevoir, elle s'est tournée vers la Russie. Et elle a demandé, elle a fait une lettre d'admission, M. Davutoglu a fait une lettre de demande d'admission de la Turquie dans l'organisation de coopération de Shanghai, où la Turquie trouverait l'ensemble des peuples turcophones qui sont sur la route de la soie. Quand s'est déclenchée l'affaire syrienne, l'Europe s'est précipitée en Turquie en disant à M. Davutoglu, Erdogan, faites attention, c'est extrêmement grave pour vous. La frontière turco-syrienne va être menacée et pour éviter tout incident, on va vous installer des unités de lancement de fusées Patriot. Mais les fusées Patriot n'avaient qu'un seul objectif, vous vous en doutez bien, qui n'était pas de protéger la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui ne présentait pas, disons, un risque à ce point, mais c'était de mettre des fusées de l'OTAN en territoire turc, ce qui rendait impossible l'adhésion de la Turquie à l'organisation de Shanghai.
Intéressant.
Intéressant à lire.
CQFD. Alors, en tant que membre de l'OTAN, La Turquie n'a pas de défense aérienne, parce que Patriot, c'est la défense aérienne assez élaborée, n'a pas de défense aérienne, disons, au nom de l'OTAN.
Non, justement. Ah ouais. C'était tout le problème. La Turquie n'avait pas de présence de troupes, labellisées OTAN, et elle participe aux entraînements et autres.
Il y a une base américaine en Turquie.
Oui, Çerlik. Mais il était d'ailleurs question qu'elle s'en aille. Et donc, par conséquent, on s'est précipité par mettre les patriotes en disant, vous voyez bien, on a maintenant des armes de l'OTAN, vous êtes vraiment les garants du front sud. Résultat, évidemment, ça rend rédhibitoire l'adhésion de la Turquie à l'organisation de Shanghai. Car là, Erdogan, qui en avait assez des atermoiements de l'Europe, se tournait vers la Russie et surtout vers son hinterland, que sont les pays, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, et qui sont des pays riches, et le Turkménistan, et donc par conséquent des pays turcophones, il ne faut pas oublier ça, et donc par conséquent, le risque était majeur de voir cette entité rejoindre dans un premier temps le poste d'observateur dans l'organisation de Shanghai, et ensuite, évidemment, de fermer la porte à l'OTAN, ce qui déséquilibrait tout le système de protection européen et mondiale autour de la Méditerranée.
Oui, parce que pour les Américains, la Turquie est clé. Hein,
ah ben c'est la clé.
Elle est toute proche de la Russie et aujourd'hui, c'est encore un problème. Quand les Américains ont voulu mettre la défense antimissile balistique dans les pays, je ne sais plus lesquels, Roumanie, etc., Pologne, les Russes, évidemment, voient ça. Théoriquement, ces missiles, c'est contre les missiles iraniens, c'est pas faux d'ailleurs, mais également, la Russie voit ça contre elle.
Mais c'est surtout contre la Russie.
Contre la Russie.
Oui, non, c'est... Bon,
l'Iran, je ne menace pas beaucoup.
Hein. Si, je connais un petit peu quand même. Et en plus, les missiles ce genre de missiles antimissiles balistiques, de défense antimissiles balistiques, n'est valable que contre des lancements, disons, pas des frappes énormes contre quelques missiles.
Voilà,
hein, elle n'est efficace que contre quelques missiles. Or, les Russes en ont beaucoup. Donc, c'est plutôt contre les Iraniens. Quand on fait les cercles, de portée des missiles iraniens au fur et à mesure qu'ils développent des missiles de plus en plus, à plus longue portée, on s'aperçoit que maintenant, il y a toute une partie de l'Europe de l'Est qui peut devenir à court terme. Bon, mais la Turquie aussi a longtemps été à fabriquer, par exemple, les missiles Stinger.
Les Stinger.
Hein, qui sont les missiles...
Que l'on donnait aux Afghans,
Mujahideen. Mais donc, elle l'a fabriqué pour plusieurs pays de l'OTAN.
Oui.
Bon, le Stinger qui, lui, est à courte portée. Pas du tout du même niveau.
Mais vous parliez de la... Simplement pour vous donner le rôle de la Turquie. Il faut savoir quand même que la Turquie est tellement essentielle que le grand rêve de Lénine... C'était de quoi ? C'était de faire entrer la Turquie à l'intérieur d'une union des républiques socialistes soviétiques. Et que le résultat de cette stratégie de Lénine, poursuivie pas très longtemps par Staline, qui a vite compris que ça aurait été difficile, mais ça vous a entraîné quoi ? Ça vous a entraîné, passez-moi l'expression, le dépeçage de l'Arménie. On a donné tout le lac de Van aux Turcs, pensant, et à Kemal Atatürk, avec lequel les discussions allaient bon train avec Lénine, pensant que Kemal Atatürk entrerait dans cet ensemble composite des peuples socialistes. Et il a fallu qu'il y ait des pressions maximales sur Kemal Atatürk, et surtout il a vu l'évolution du régime, disons, de Lénine, qui lui fasse rejeter cette possibilité. Seulement, les accords étaient signés. le mont Ararat se trouve en Turquie et pas en Arménie à cause de ça.
Oui. Alors, votre opinion, monsieur le professeur, sur l'avenir de la crise actuelle ?
Mon opinion sur la crise actuelle, alors si vous voulez, la crise actuelle, je voudrais vous dire simplement comment je l'ai vue et comment je l'espère. Comment je l'ai vue ? Une chance gâchée, quelque chose d'extraordinairement, une opportunité phénoménale qui nous a été offerte à nous occidentaux. Lorsque la déstabilisation de l'Ukraine devenait majeure, il eût été du devoir des Européens de se tourner vers les Russes et vers Poutine, qui l'avait demandé lorsqu'il est venu en janvier à Bruxelles, où il a proposé cet accord pour stabiliser l'Ukraine, d'établir un partenariat entre la Russie et l'Union européenne pour ensemble permettre à ce pays de se stabiliser, d'aller vers des élections et de choisir un petit peu plus tard son destin. Nous avons fait exactement le contraire. On a instrumentalisé la révolution que l'on avait d'ailleurs, selon certains, le journal polonais nié, donne des pages instructives. Alors il faudrait vérifier sur la formation des cadres de la révolution de Maïdan en Pologne. Et on a fait exactement le contraire. Et cela a été dramatique parce que, vous savez, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, c'est un homme qu'il faut essayer de comprendre. C'est un homme qui est passé à travers des moments de vision désespérante de l'humanité. C'est l'homme, ne l'oubliez jamais, qui a désarmé les Vopos pour permettre la chute du mur de Berlin. C'est lui qui a reçu le télégramme de Gorbatchev après sa visite à Rome et qui a appliqué, ce qui fait que vous voyez les Vopos les mains dans les poches. Hein. C'est lui qui a rapatrié l'armée rouge en Russie. C'est lui qui a vu l'armée rouge passer 3 ans et 3 hivers sous des abris d'avions. Il a démissionné à ce moment-là du KGB, il faut savoir ça. Donc c'est un homme qui a connu les humiliations que les Russes ont connues dans cet effondrement du système soviétique. Aujourd'hui, le message qu'il nous envoie, c'est de dire « stop, c'est fini. Maintenant, vous allez trouver en face de vous un pays responsable, un pays qui est en mesure de mettre sur rail ses décisions et il le fera sans hésiter. Alors, ce que je souhaite, moi, pour l'avenir, c'est que, et je pense qu'il y a des signes encourageants quand même, il ne faut pas, comme le fait exclusivement notre presse, ne mettre en exergue que les éléments négatifs. Alors, on nous dit qu'il y a des trublions à l'Est, il y a des morts, il y a des conflits. Non, tout ça, c'est un peu, je pense, à mettre au rang d'une information toujours attentive au scoop. En réalité, aujourd'hui, il me semble que ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. D'abord, parce que le gouvernement, enfin ce qu'on appelle le gouvernement de Kiev, vient de prendre des décisions qui me semblent intéressantes. Il vient d'aller et de reconnaître une marche vers, peut-être pas le fédéralisme, mais vers une très large autonomie des régions. Il vient de donner à ces régions le choix de choisir leur espace linguistique, russe ou ukrainien. C'est un bon signe. Il faut que de l'autre côté, il y ait les mêmes signes. Et je pense que des gens de la stature de Sergueï Lavrov et de Poutine sont capables certainement de dire aux gens « il faut calmer le jeu ». L'Ukraine doit rester ce qu'elle est. La Crimée a retrouvé, je dirais, l'Empire russe. Je ne pense pas qu'il soit dans l'espérance des Russes, à court terme, ni à moyen terme, et encore moins à long terme, de s'orienter vers une marche vers l'Ouest, jusqu'en Transnistrie, comme on l'a dit, parce qu'il faut oublier que la Russie est un pays qui vient de démarrer son économie, qui a besoin de travailler, qui a besoin qu'on l'appuie, qui a besoin de mobiliser toutes ses forces vives pour restaurer et mettre ce pays dans une dynamique qui soit une dynamique autre. Et c'est la raison pour laquelle il voulait faire l'Eurasie. Mais si à nos édiles de Bruxelles avaient saisi Poutine en janvier en lui disant « Vous voulez quoi ? Vous voulez construire un espace économique commun ?» Il proposait à l'Europe et de mettre en place une commission russo-européenne pour élaborer un élément de travail en commun. Il proposait à l'Union européenne de mettre en place une commission pour faire évoluer les systèmes juridiques et reconnaître les droits de l'homme. C'est l'Europe qui lui a décerné une fin de non-recevoir. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que nous avons été dans cette affaire-là responsables et coupables.
Pour cela, il aurait fallu que nous eussions une véritable politique étrangère et même une indépendance de la politique étrangère.
Je serais encore plus dur que vous. Il aurait fallu que nous eussions des hommes de compétences et de talent et de savoir, ce qui malheureusement n'est pas le cas, ni en Europe, ni en France.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal des historiens, et nous venons d'entendre Jean-Pierre Arignon à propos de l'Ukraine et de la Russie. Et une auditrice de Radio Courtoisie nous demande « Depuis quand existe la configuration actuelle de l'Ukraine ?» Et puis une autre question, « Quelles sont les régions d'Ukraine qui faisaient partie de l'Empire austro-hongrois ?»
Alors, la configuration actuelle de l'Ukraine a été achevée par Staline. La dernière région qui a été donnée, c'est Staline qui l'a donnée. Alors, il faut savoir que c'est la région de Galicie-Volhynie, c'est la dernière qui a été donnée par Staline. C'est celle qui achève la formation jurée de l'Ukraine, auquel on a ajouté la Crimée sous Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne et qui a donné la configuration actuelle. Mais celui qui a configuré l'Ukraine dans ses frontières actuellement, le dernier, c'est Staline. Ce qui est intéressant dans cette question, donc l'Ukraine, vous voyez, c'est un agglomérat. Alors, la Galicie et la Volhynie étaient des régions de l'Empire austro-hongrois et qui vont être intégrées ensuite, à la suite des guerres, dans cet espace reconstitué que va être cette Ukraine.
L'Ukraine avec la Boucovine.
Avec la Boucovine, voilà. C'est une reconstitution un petit peu d'État. Ce qui fait que les tensions peuvent être fortes entre les uns et les autres. Dans cette Ukraine, malheureusement, qui connaît aujourd'hui une situation économique très difficile.
Et puis une auditrice nous dit, de Radio Courtoisie, nous dit « Bonne émission, bravo pour vos propos sur Poutine.
Ah. » C'est un homme que je connais, très très bien. Je pense peut-être être un des rares en France qui le connaissent bien depuis sa naissance jusqu'à nos jours. C'est un personnage très très particulier. Mais je pourrais vous dire que si les Français avaient voulu connaître Poutine, il suffisait qu'ils lisent Otpier Rovalitsa à la première personne, le livre qui a été écrit par des journalistes russes qui ont enquêté tout autour de sa famille et tous ceux qui l'ont formé. On aurait découvert beaucoup de choses. Je l'ai traduit en français, aucun éditeur n'a voulu le publier.
Alors, nous avons des réponses à certaines questions. Maïdan est une vieille racine indo-européenne. Oui. On retrouve ce mot qui désigne une esplanade, voilà. Une grande place, en Inde et même en Indonésie, dont la langue nationale contient des mots sanscrits.
Le farsi et voilà. Maïdan.
Un autre auditeur, Maïdan signifie place en ukrainien. Le nom de cette place est en fait Maïdan Nezalegnosti, ce qui signifie place de l'indépendance, voilà. Ce qui est imprononçable que l'on simplifie par Maïdan. Il faut tout de même replacer le contexte politique actuel qui est d'un niveau lamentable. L'Ukraine est sous la coupe de la CIA, nous dit-il, sans s'en cacher. Le chef de l'USB, ex-KGB ukrainien, a été recruté par la CIA alors qu'il était consul à Washington. Alors, il nous reste simplement quelques minutes. Je voudrais en profiter pour vous rappeler le colloque du 17 mai prochain, un colloque organisé à l'occasion de la disparition, de la commémoration de la disparition de Dominique Vénère. Colloque du 17 mai, donc, qui aura lieu à la Maison de la Chimie, au 28 bis rue Saint-Dominique. Vous pouvez en savoir davantage en allant sur l'adresse colloque Dominique Vénère en un seul mot @gmail.com. Nous aurons comme intervenant lors de ce colloque Pierre-Guillaume de Roux qui vient de rééditer le Cœur rebelle, le célèbre ouvrage de Dominique Vénère devenu introuvable qui date de 1994. Et outre Pierre-Guillaume de Roux, Bernard Lugan qui parlera de l'esprit corps franc, Javier Luis Portella, le correspondant espagnol de Dominique Vénère, Alain de Benoît moi-même. Voilà donc pour ce qui concerne ce colloque du 17 mai. Vous avez des...
Non, je voulais confirmer, 17 mai.
On arrive à la fin de l'émission. Donc, bonsoir, chers auditeurs. Et nous nous retrouverons, je crois, le mardi 20 mai. Oui, 20 mai ou 19 mai, je ne suis plus certain.
Ouais. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Nicole, diffusé en direct ce mardi 22 avril 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé mercredi 23 avril 2014, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis, à la demande, sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant les chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.